Le Mac des sports, et c'est souvent le cas, on va commencer avec le football, et notamment la 27e journée de Ligue 1 qui se disputait ce week-end, Mickaël Gineski.
Oui, et parmi les derniers résultats du jour à retenir, le FC Nantes qui s'est incliné face au Havre sur le score de 3-2. C'est une mauvaise opération pour les Canaries dans l'optique du maintien, évidemment. Nantes reste 13e, mais perd donc de l'avance sur les clubs de la zone rouge, dont les Havrais. Nantes voit l'écart se réduire, désormais 3 points seulement du premier relégable, son adversaire du jour. C'est un vrai loupé, regrette le coach de Nantes, Antoine Comboiré.
On est passé à côté de notre match, c'est pour ça que j'ai dit on avait aujourd'hui une équipe qui joue le maintien vraiment, et puis nous on est venu ici, faut croire qu'on était encore à Nantes. Voilà. Ben, c'est bien, on est dans le dur, c'est bien. Apparemment, je l'avais dit, on aime à se faire peur, donc aujourd'hui, c'est bien, on va voir comment on va se comporter.
Les autres résultats du jour, Brest qui a battu Toulouse sur le score de 4-2, victoire encore de Rennes à Angers 3-0 et d'Auxerre face à Montpellier 1-0. Lille enfin en match de clôture dans le derby du Nord face à Lens, les Lillois se sont imposés sur la plus petite des marques 1-0. Je rappelle du week-end que le Paris Saint-Germain n'est pas passé loin d'être sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire, c'était hier, après avoir écrasé Saint-Etienne 6-1, oui, mais Monaco l'en a privé en battant Nice 2-1 dans le derby de la Côte d'Azur. Et de son côté, Marseille s'est incliné 3-1 contre Reims.
Voilà, on va, après avoir parlé de la 27e journée de Ligue 1 de football, on va parler en rugby de la 20e journée de Top 14.
Et la victoire ce matin dans un duel des extrêmes du Racing 92 sur ses terres face à l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles qui joue les premières places. Les Racingmen, en difficulté actuellement, s'imposent de peu, 36-31. Il remonte à la 11e place du championnat. On rappellera de ce week-end encore le succès du Stade Toulousain face à la sélection paloise, 55-10. Victoire aussi de Clermont sur La Rochelle, 33-19. Et de l'Aviron Bayonnais sur Lyon, 28-14. Montpellier mené 29-3 s'est finalement imposé 38-32. Après la sirène face au Stade Français, le Castres Olympique a dominé de justesse Toulon, 28-26. Et enfin, dans un duel de mal classé, Vannes et Perpignan se sont quittés dos à dos, 20 partout. Alors, à 6 journées de la fin de la phase régulière, Toulouse garde la tête juste devant l'UBB et Toulon. L'Aviron Bayonnais est au pied du podium. Castres est 5e et Clermont 6e à égalité de points avec Lyon. En bas de tableau, Perpignan est avant-dernier et Vannes est lanterne rouge.
Et on rappellera que le 15 de France Dames a gagné de son côté son deuxième match du tournoi des 6 nations face aux Écossaises, 38-15. Les Bleus restent en deuxième position du classement puisqu'elles n'ont pas réussi à s'imposer avec le bonus en alors que les Anglaises, de leur côté, ont étrié les Galloises 67-12. Prochain match des tricolores, ce sera face aux Galloises dans 2 semaines. Sur les terrains de rugby à 7 maintenant, Mickaël, pas de médaille d'or pour les équipes de France à Hong Kong.
Et malheureusement, l'équipe de France, messieurs, qui a craqué en finale sur la voie d'un titre. Les Bleus se sont inclinés face à l'Argentine sur le score de 12-7. Quant aux Françaises, elles ont échoué, elles, au pied du podium, battues dans la petite finale par les Canadiens sur le score de 28-5.
On passe à la MotoGP avec une course à rebondissement. C'était le Grand Prix des Amériques.
Et on retiendra surtout la chute de Marc Marquez dans le 9e tour. Marc Marquez qui a donc ainsi laissé le champ libre à son coéquipier italien sur Ducati Pecco Bagnaia pour aller décrocher la victoire. L'Espagnol faisait pourtant la course en tête après avoir déjà gagné la Sprint Race et signé la pole position sur ce circuit d'Austin. Conséquence, son abandon lui fait perdre la tête du classement mondial malgré ses victoires sur les deux premier Grand Prix de la saison. Il est devancé d'un tout petit point par son frère Alex Marquez. La réaction de Marc Marquez.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des petits coups de malchance qui arrivent. Je m'y attendais pas, mais c'est comme ça.
Hier,
ça s'est bien passé, mais j'étais pas non plus Superman. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, je suis deuxième à un point du leader au championnat. Maintenant, il va falloir apprendre de cette erreur.
Et côté français, Fabio Quartararo a lui réussi à terminer à la 10e place au guidon de sa Yamaha. En revanche, Juan Zarco, victime d'une chute, a dû abandonner dans le deuxième tour. Prochaine course, ce sera dans deux semaines. Cette fois, les pilotes mettront le cap sur le Qatar.
Et puis, on va refermer cette première page du magazine des sports avec le tennis et la finale du Masters 1000 de Miami.
Et dans le tableau, messieurs, la finale se joue en ce moment même. Le Serbe Novak Djokovic tente de gagner son 100e titre face au Tchèque Jakub Mencik, 54e au classement mondial. Chez les féminines, le duel entre la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula a tourné à l'avantage de la tête de série numéro 1, Aryna Sabalenka, qui l'emporte 7-5-6-2.
Voilà, maintenant on va pouvoir marquer une petite pause dans ce magazine des sports du lundi avant de retrouver la page consacrée au sport en Calédonie. Nous recevons notamment dans un instant Christophe Dabin, le président du CTOS. À tout de suite.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Envie d'un pick-up confortable et robuste ?
Bah, Isuzu D-Max !
Un 4x4 équipé au top pour toute la famille ?
Isuzu D-Max ! Le Isuzu D-Max, double cabine, 150 chevaux, 5 places, et pour vous à seulement 3 690 000 francs. Venez l'essayer et découvrez aussi la série limitée Aito.
Isuzu au village automobile PK4 Nouméa.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Voilà ! 8 musiciens du territoire bourrés de talent ont décidé de rendre hommage à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Carlos Santana. Un mélange unique de rock, de blues, de rythmo latino, avec des titres comme Black Magic Woman, Oye Como Va ou encore Europa. Bref, une soirée inoubliable vous attend vendredi 4 au On The Beach. Vous pouvez réserver sur ticket.nc, 2600 francs pré-vente ou 3000 francs sur place. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Tribute to Carlos Santana, le concert vendredi 4 au On The Beach.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec une partie consacrée au sport sur le territoire, on va parler de la préparation des mini-jeux du Pacifique. Notre invité est en effet le président du CTOS, Christophe Dabin, Michael.
Christophe Dabin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. On le rappelle, effectivement, cette échéance qui approche les mini-jeux du Pacifique à Palau, ce sera du 29 juin au 7 juillet. Oui, mais voilà, l'annonce a déjà été faite. On va réexpliquer un petit peu. C'était attendu, hein, ce n'était pas une surprise, hein, pour le monde sportif. Ça sera une délégation réduite qui partira représenter la Calédonie.
Je crois qu'il faut être réaliste et puis conscient de ce que la Nouvelle-Calédonie vit aujourd'hui. Ça veut dire que on avait déjà prévu en début d'année dernière de réduire la délégation parce qu'au départ on aurait pu partir à plus de 200 athlètes et l'année dernière en début d'année on avait dit on va réduire pour être autour de 100-120 et les événements on sont arrivés et donc aujourd'hui il est clair que la situation financière de Nouvelle-Calédonie est tellement je veux dire catastrophique que on pouvait pas s'attendre à partir avec une délégation normale et donc mais par contre pour nous il était important que la Nouvelle-Calédonie soit présente et même si on n'avait pas eu d'aide financière, on aurait trouvé la solution pour que la Nouvelle-Calédonie soit présente avec deux, trois athlètes, mais au moins que la Nouvelle-Calédonie soit présente. Donc là, aujourd'hui, on a un petit peu fait des choix qui étaient le plus judicieux possible, mais naturellement en collaboration avec l'ensemble des disciplines qui étaient prévues pour aller au jeu.
Alors justement, on va détailler qu'est-ce qui est prévu dans ce modèle-là. Il a fallu s'adapter, c'est ça le mot d'ordre.
S'adapter parce que pour aller à Palau, le chemin est tellement compliqué pour y aller. Donc les billets d'avion sont extrêmement excessifs. Donc il a fallu voir. Et donc par rapport au budget qui était proposé, ça a tourné autour de 43 personnes au total pour la délégation. Et donc chef de mission Marion Romagne et l'équipe du CTOS ont rencontré l'ensemble des disciplines qui étaient prévues pour aller au jeu. Et avec chacune discipline, on a fait le point. On a regardé, on s'est dit, on ne peut pas amener une équipe complète pour chacune des disciplines, donc ça sera 2, 3, 4, 5. Et donc chaque discipline a fait le choix de se dire, est-ce que c'est intéressant pour moi d'aller au jeu, mini-jeu, ou est-ce que vaut mieux pas que j'aille faire une compétition dans les mois qui arrivent dans le Pacifique. Et donc avec chacune des disciplines, les disciplines ont dit, on y va ou on n'y va pas. Et donc là, ça a vraiment été un travail de collaboration totale. Et moi, je souligne, je veux dire, la conscience de nos dirigeants, la responsabilité qu'ils ont eue, parce que le choix était difficile, parce que je veux dire, on peut toujours après être critiqué par ses propres athlètes, mais le choix qui a été fait est un choix que dire, comment on fait, où est-ce qu'on va, est-ce que c'est utile ou pas. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Jeux de Palau étaient une étape dans la préparation des Jeux de Tahiti. Donc, si on ne peut pas y aller là, il y aura d'autres compétitions de préparation qui vont se faire avant Tahiti. Et normalement, ceux qui vont à Palau on devra avoir ces mêmes athlètes qu'on devrait retrouver à Tahiti. C'est l'objectif qu'on a fixé à l'ensemble des disciplines.
On le rappelle bien, pour que le grand public se figure vraiment la gravité de la situation, c'est finalement seulement 40% hein, du budget initialement prévu qui a été alloué au mouvement sportif. Hein.
Oui, et puis je peux dire qu'on a quand même de la chance d'avoir au moins 40%. Mais c'est vrai qu'on avait quand même vu avec la Nouvelle-Calédonie pour dire que si on mettait de l'argent pour les Jeux, il fallait aussi que les ligues et les comités qui ont souffert l'année dernière puissent avoir aussi des subventions et des aides pour pouvoir fonctionner cette année. S'il n'y avait pas d'aide pour les ligues, il n'était pas question qu'on aille aux Jeux parce que, je veux dire, on ne peut pas dire priorité les Jeux et rien pour les disciplines sur le territoire. Donc là, on a bien un juste milieu qui a été trouvé avec des subventions qui seront données aux ligues cette année pour fonctionner et avec une petite subvention qui permet à ce que la Nouvelle-Calédonie soit présente à Palau.
Alors, on s'en souvient, dans les années précédentes, dans d'autres cas de figure, évidemment, quand il était l'heure de faire des choix, parfois, dire à une discipline plutôt qu'à une autre qu'elle ne pouvait pas participer à une échéance régionale, ça avait fait grincer des dents. Cette fois, tout le monde était mis au diapason depuis déjà l'année dernière. On le suppose, vous l'avez dit, un long travail. Tout le monde s'y attendait finalement à cette...
Tout à fait, tout le monde s'y attendait et c'est vrai qu'on a aussi dans la discussion qu'on a eue avec les ligues, c'est savoir exactement quelles étaient les ligues qui étaient déjà dans ce cadre de la préparation de Tahiti 2027. Donc c'est vrai qu'à un moment, ça nous permet de faire vraiment le point et les disciplines qui aujourd'hui commencent simplement, elles se disent on n'est peut-être pas prêt. Donc il vaut mieux qu'on regarde, qu'on attende un petit peu et que par contre on continue à se préparer pour Tahiti 2027. Ce qui fait que vraiment sur les disciplines qui y vont, autant le nombre d'athlètes est limité, mais le nombre d'encadrants est encore plus limité. Parce que pour les disciplines, il n'y aura parfois qu'un seul encadrant. Et parfois, dans certaines disciplines, il n'y aura pas d'encadrant parce que un athlète va faire office d'entraîneur. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a joué le jeu et tout le monde a compris et a pris conscience de la situation qu'on vit aujourd'hui.
Alors, en ce qui concerne cette délégation qui partira à Palau, ce n'est pas encore tout à fait totalement figé, mais on a déjà dressé la liste, hein, plus ou moins, des disciplines qui auront l'opportunité de partir. Participer à ces mini-jeux.
C'est vrai que là, aujourd'hui, la sélection finale, elle était prévue pour le 1er mai. On a avancé un petit peu par rapport à chacune des disciplines parce que quand vous partez par des vols réguliers, il va falloir commencer à prendre des billets d'avion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien l'athlétisme qui part, le handisport, la natation, le tennis de table, le triathlon. Et ensuite, on a encore des discussions en ce qui concerne le basket 3-3 qui, pour l'instant, est prévu, mais la situation est un petit peu complexe avec FIBA Océania. Donc, c'est pour ça qu'on attend un petit peu un arbitrage de la part de la Fédération française de basket, pour vous dire que la situation est assez complexe. Et ensuite, sur le volley, c'est savoir ensuite avec le volley, savoir quel est le potentiel qu'ils ont pour les amener en beach. Et par contre, l'indoor, aujourd'hui, on sait très bien que l'indoor, c'est 12 personnes. J'ai 30 athlètes dans ma délégation au maximum. Je vois pas comment j'arriverai à faire partir tout le monde. Et puis, on aura peut-être une autre petite ouverture. Mais là, qui vient de la Fédération océanienne, qui souhaite qu'il y ait un haltérophile qui va, parce que l'haltérophile devait être présente. Et la Ligue a préféré miser sur un déplacement qui va avoir lieu au mois de septembre, octobre, en Nouvelle-Zélande, qui est pour eux beaucoup plus intéressant. Mais voilà, mais en tout cas, ça permet un petit peu on tournera au grand maximum entre 30, 31, 32 athlètes au grand maximum.
Voilà. À l'heure de faire ses choix, vous l'avez mentionné, la majorité des représentants, des encadrants, des ligues, des différents comités, finalement, ils sont conscients de cette situation et c'est parti de ce postulat-là. Ils acceptent finalement de faire de cette manière.
Oui, mais c'est pour ça que je dis, moi, on a des bénévoles, dirigeants extrêmement responsables. Et c'est vrai que par rapport à la discussion qu'on a eue, c'est eux-mêmes qui ont pris la décision de dire on y va, on n'y va pas. Et ça, c'est important. Il n'y a pas eu de la part du CTOS de dire vous y allez, vous y allez pas. C'est vraiment un échange qu'il y a eu par rapport aux conditions qu'on avait fixées. Et c'est vrai que là, ils sont tous conscients aujourd'hui que l'activité doit reprendre sur le territoire. Que l'activité, c'est peut-être relancer dans tous les clubs, mettre en place des championnats, mettre en place des compétitions. Ça, c'est leur priorité. Les mini-jeux, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour cette année et pour certains athlètes. Mais ils savent très bien aujourd'hui que la cerise, elle sera beaucoup plus belle et elle sera beaucoup plus grosse si d'ores déjà on reprend l'activité sur le terrain, on met en place la préparation pour les Jeux de Tahiti, parce qu'ils savent très bien et tous sont conscients aujourd'hui que l'objectif qu'on fixe aujourd'hui, c'est bien les Jeux de 2027.
Alors, la question qui peut encore se poser, on suppose que les problèmes, la crise financière qui touche la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes de 2024 va pas s'arrêter du jour au lendemain. Évidemment, si dans les années à venir la situation perdure, ça pourrait encore impacter forcément l'organisation de tout ce qui se fait au niveau du CTOS, au niveau du mouvement sportif.
Bah oui, parce qu'on a bien vu l'année dernière que beaucoup de choses s'étaient arrêtées au-delà même donc des événements, mais surtout ensuite des finances. Donc là, aujourd'hui, cette année, je pense que sur les demandes de subventions que l'ensemble des ligues avaient pu faire auprès de la Nouvelle-Calédonie, on sait très bien que sur l'ensemble des subventions, ils vont n'en avoir qu'une partie. Donc ça amène automatiquement les disciplines à faire des choix, à prioriser des actions et surtout aussi peut-être à un moment ou à un autre de se réinventer, c'est-à-dire comment je peux fonctionner, à dire est-ce que c'est intéressant d'aller faire un championnat de France où j'ai très peu de chance, plutôt que dire allez je vais peut-être en Nouvelle-Zélande, Australie où le billet est beaucoup moins cher, je peux amener beaucoup plus d'athlètes et ça sera peut-être plus formateur. Donc c'est à chacune des ligues de voir un petit peu comment ils vont réussir à gérer, mais on sait que 2025, et vous le dites régulièrement sur vos ondes, que l'année 24 a été difficile, mais l'année 25 elle va être aussi difficile. Et puis, 2025, je veux dire, on ne peut pas dire qu'après, on va gagner au loto et qu'on va avoir beaucoup plus d'argent en 2026. Donc, on sait très bien que les trois années qui arrivent aujourd'hui sont des années qui vont être très délicates. Mais il ne faut pas que on baisse les bras et qu'on arrive à voir de quelle manière on peut fonctionner.
À long terme, ça peut nuire au mouvement sportif en général. Si les jeunes voient que voilà, il y a moins de compétitions à aller viser, il y a moins d'objectifs, est-ce que ça pourrait entraîner de gros soucis pour les ligues ?
Je ne pense pas, parce que moi, quand je vois un petit peu les dirigeants, même si, vous savez, les dirigeants, quand on n'a pas d'argent, on trouve des solutions. Et puis on a beaucoup de dirigeants après qui organisent des manifestations à côté pour trouver de l'argent. Je veux dire, regardez le basket 3-3 qui partent Asia-Pacifique, je veux dire, ils ont trouvé des financements en menant des actions. Donc je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas cette crainte, mais c'est vrai que ça peut amener beaucoup d'inquiétudes, d'abord chez les parents qui mettent leurs enfants, et après surtout sur les dirigeants qui se disent mais comment on va réussir à faire fonctionner les choses.
Très bien. Une dernière petite question sur un tout autre sujet avant de conclure, Christophe Dabin. Aujourd'hui, ce lundi, c'est le lancement en Calédonie de la semaine olympique et paralympique. Dans les grandes lignes, repréciser un petit peu l'objectif de cette opération qui est menée avec plusieurs partenaires.
Alors, c'est une opération qui est lancée par le CNOSF et c'est la première fois qu'on peut l'organiser en Nouvelle-Calédonie parce que la période tombe pendant une période, je veux dire, scolaire, alors que d'habitude, c'est toujours pendant nos vacances scolaires, donc ça posait problème. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment la pratique de l'activité physique, surtout la pratique d'activité physique un petit peu olympique, mais c'est surtout aussi des échanges avec des athlètes et des olympiques et paralympiques. Donc aujourd'hui, cette semaine, cinq sites ont été choisis. Donc chaque jour, une commune différente et systématiquement des activités qui sont organisées avec l'aide du groupe en employeur Sud et en même temps avec le LUSEP. Et surtout, des rencontres avec des sportifs. Donc vous aurez Félicia Ballanger, Pierre Fairbank, Michel Quintin qui seront sur le terrain et qui pourront raconter et expliquer ce que c'est que le mouvement olympique et paralympique.
Malgré les années difficiles, on mise déjà sur les prochaines générations pour le mouvement sportif.
Naturellement, et puis il y a un déplacement à Yaté, il y a un déplacement à Thio, donc ça montre aujourd'hui qu'on peut aller vers les gens pour leur montrer quelque chose de beaucoup plus important. Et puis, il y a une chose qui est importante aussi, je crois que le fait d'aller au mini-jeu, c'est montrer aussi ce que c'est la Calédonie. Ben, on a du potentiel. On a des athlètes qui sont performants. Et je crois que c'est ça aussi, donner l'image avec tous nos voisins du Pacifique que ce que c'est exactement aussi la Nouvelle-Calédonie.
Merci encore, Christophe Dabin, président du CTOS, d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci à vous.
La suite et la fin du magazine des sports, Mickaël. C'est avec le récapitulatif de l'essentiel des résultats du week-end sur le territoire.
Et on va notamment parler tennis de table avec la coupe d'ouverture du comité provincial sud. C'était samedi, 64 participants étaient de la partie à la salle Jean Noyon. Une belle surprise pour le président du comité, Philippe Bonnefoy.
On est victime du succès, alors je ne sais pas si c'est l'effet Lebrun ou c'est parce que vraiment le tennis de table est en pleine forme. C'est la première fois que depuis 25 ans qu'on a un tableau jusqu'à 64 joueurs pour telle compétition. On a fait en sorte que tout le monde puisse jouer le maximum de fois. Donc le plus jeune, je pense qu'il a 8 ans. Le plus ancien, Henri Wo, il doit avoir presque 79 ans. Donc voilà, c'est de plus que 7 à 77 ans. Et tout le monde joue et c'est très bien.
Et côté résultat, c'est Jérémy Deck qui s'est imposé en finale sur Jérôme Morisseau. Olivier Clouet complète le podium. Maëlys Giret termine 5e, c'est-à-dire première féminine. Les triathlètes avaient quant à eux rendez-vous à Bouloupari ce samedi. Le triathlon Jérémy Brouté de Bourraquet épreuve au calendrier de la Ligue. Les concurrents s'affrontaient sur des formats courts, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. À l'arrivée, c'est Mathieu Talamacha qui est arrivé en tête, 59 minutes et 17 secondes, juste devant Florian Barquette, 1h42 secondes, et Jonathan Berger. Écoutez, Serge Le Tocard, le président de la JSVDT, organisateur de ce rendez-vous.
Une grande joie pour notre club, hein, parce que cette course, elle est dédiée à la mémoire de Jérémy Boutet, mais aussi une épreuve de sélection. Hein, donc 87-17 personnes présentes aujourd'hui pour concourir. C'est le niveau d'il y a plus de 5 ans maintenant, donc on est heureux pour le triathlon, on est heureux pour notre club et pour la famille Boutet, bien évidemment. C'est magnifique, une belle journée de sport, une belle réussite. Voilà.
J'ajoute que chez les féminines, c'est Charlotte Robin qui était la plus rapide. 1h11 minutes 46 secondes, 13 petites secondes seulement de mieux que Nathalie Viratel. Mélanie Allier complète le podium. Et donc, pas moins de 97 concurrents étaient réunis. Nessa Diou du VTT, hein, ce week-end, d'une course organisée par le CSB. C'est Guillaume Dréau qui s'est imposé chez les messieurs, chez les dames. Victoire de Jessica Bélanguez. Du côté des jeunes, Ethan Dacremont a gagné chez les moins de 17 ans. Et chez les moins de 15 ans, c'est Amaury Yod qui s'est imposé. Sport et jeunesse, c'était samedi la finale du challenge Benjamin de basket, des graines de champions tous réunis pour des épreuves individuelles. Ça se passait à la salle Omnisport de Lansvata. Deux pensionnaires d'ailleurs de la 6e kilomètre se sont imposés, Jan et Janaël, qui iront à Paris pour les finales nationales du challenge le week-end de la finale de la Coupe de France de basket. Et puis il y avait de la voile au féminin, une quarantaine de participants engagés sur un nouveau rendez-vous 100% skippeuse organisé par le CNC. Des équipages qui s'affrontaient sur une série de régates. Les navigatrices étaient embarquées sur chaque navire. Ambiance.
Franchement, on est hyper contents. C'est bien de promouvoir les femmes à la barre. C'est cool de, du coup, de naviguer aussi avec des hommes. C'est pas un événement 100% féminin. Donc ça permet de trouver un équilibre sur le bateau entre hommes et femmes, en sachant que du coup, c'est quand même les femmes qui lead.
Très contente de participer à cet événement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Être sur l'eau pour prendre du plaisir, ça c'est cool.
Vraiment sympathique. Et puis voilà, on apprend surtout. C'est un bon moment.
Mathieu Landrieux, président du Cercle Nautique Calédonien. On s'est rendu compte que ces événements à portée féminine, en fait, au-delà de l'événement lui-même, à plus long terme, ça fait qu'on a plus de pratiquantes. Donc on s'est dit, il faut continuer à inciter là-dessus.
Et côté résultat, c'est l'équipage de Marine Canaille qui s'est imposé avec un peu moins de 2 minutes d'avance sur Guilty Fox. Et puis toujours sur l'eau, il y avait du surf à Bouraille, compétition de shortboard pour lancer la saison en Open. Victoire d'Isaac Coste devant Riwan Lepietek et Kurt Pascal. Chez les espoirs, c'est Thibaut Bézère qui s'est imposé devant Wayne Coste et William Meyer. On termine avec quelques résultats hors du territoire. Du football, évidemment, vous le savez, Tigasport qui a réussi son entrée en lice en O-League. Les représentants de la Calédonie en Ligue des Champions d'Océanie ont battu les Fidjiens du Riwa FC 4 buts à 2. Prochain rendez-vous, ce sera mercredi à 15h contre les Néo-Zélandais d'Auckland City.